de bombes par-dessus les frontières. Pour la nage, pour le communisme, sera l'humeur à le brasier qui consumera le vieux monde. Sera l'humeur à le brasier qui consumera le vieux monde. Sera l'humeur à le brasier qui consumera le vieux monde.
Brasero, brassage radio. Aujourd'hui à Brasero, on va parler de la protection de l'enfance. En recevant sur le plateau trois professionnels qui travaillent à la protection de l'enfance, on va chercher à comprendre, à questionner cette institution censée protéger les enfants et les ados. Parler de protéger les enfants, c'est parler des violences dont elles sont victimes. Des violences physiques, psychologiques, sexuelles, institutionnelles, intrafamiliales. Parler de protéger les enfants, c'est parler d'un système global de domination des adultes sur les enfants et les ados, qu'on appelle l'adultisme. Un système qui accorde plus de droits, de valeurs aux adultes qu'aux enfants et aux ados, où ces derniers ne sont pas entendus, pas crus, pas respectés, et où les agresseurs sont protégés. Mais c'est aussi parler de toutes les discriminations que les enfants et les ados vivent au quotidien. Parler de protéger les enfants, c'est parler de nos propres responsabilités en tant qu'adultes. À écouter et entendre les enfants, à les prendre en compte, à questionner nos pratiques éducatives, nos représentations autour de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse. C'est refuser aussi que la question des violences faites aux enfants soit réappropriée par l'extrême droite, assumer que c'est un sujet qui a été trop longtemps minimisé par les milieux de gauche et féministes. Parler de protéger les enfants, c'est penser à tous les collectifs qui luttent au quotidien pour faire valoir les droits des enfants, aux mouvements qui s'organisent en France et partout. C'est écouter les collectifs d'anciens enfants placés qui prennent la parole, témoignent, dénonce les dysfonctionnements de la protection de l'enfance et les discriminations qu'elles ont vécues dans leur parcours et qui, pour certaines, sont descendues dans la rue le 15 novembre 2025 pour marcher en soutien à tous les enfants et ados. Bon, on pourra sûrement pas parler de tout ça ce soir parce que, comme d'habitude, il va falloir choisir un angle, le prendre par en bout et en laisser d'autres. Ce soir, donc, on va chercher à comprendre un peu mieux comment fonctionne la protection de l'enfance, ses fonctionnements et ses dysfonctionnements, et comment les professionnels se débattent avec elles-mêmes et avec l'institution pour accompagner, prendre soin de ces jeunes qu'elles voient au quotidien, mais aussi quelles sont les luttes, les espoirs du quotidien. Bonne écoute.
Ben bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir. On ne vous a pas présenté, donc peut-être vous pouvez vous présenter vous-même, comme vous avez envie, et puis peut-être nous dire aussi comment vous en êtes arrivé là à travailler dans ce que vous faites.
J'y vais. Bonsoir, moi je m'appelle Élise et je suis médecin généraliste dans un foyer d'accueil d'urgence depuis 7 ans. Et comment je suis arrivée là un peu par hasard et finalement pas tant parce que quand même on a beau dire il n'y a pas de reproduction sociale, mes parents ne sont pas médecins mais ma mère était quand même référente ASE et mon père travaillait à la DAS et ma tante est famille d'accueil et médecin de PMI, enfin finalement il n'y a pas c'est pas tant que ça c'est pas si original, mais en tout cas mais c'est quand même un peu drôle parce que je me suis retrouvée à faire un stage d'autodéfense féministe et à rencontrer une copine que je connaissais pas avant et qui bossait au foyer de l'enfance et je lui ai dit mais moi je rêve de travailler dans une pouponnière et elle m'a dit ah bah il y a un remplat dans un mois et je suis venue pour rester 3 mois et ça fait 7 ans. Voilà pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi je reste, grande question, mais je laisse mes collègues se présenter.
Moi je suis Morgane et je travaille au même endroit qu'Élise, donc dans un foyer d'urgence, un gros foyer du département qui accueille on va dire entre environ 250 enfants. Le foyer d'urgence du coup c'est l'endroit où quand on est placé on arrive directement en attendant d'avoir un autre foyer qui aura sûrement un peu plus de moyens et un peu plus de capacité pour prendre soin de l'enfant au long terme. Le foyer d'urgence normalement on n'y reste pas. Comment je suis arrivée là, donc un peu par hasard et un peu pas par hasard, comme toi Élise, un peu par hasard en cherchant du travail dans la période post-Covid. Voilà, donc ça fait 5 ans que je travaille là-bas, soit pendant plus de 2 ans auprès des enfants de la rue et maintenant depuis plus de 3 ans, surtout auprès d'enfants étrangers. et un peu pas par hasard, parce que finalement, moi, petite, j'ai échappé de près à un placement et je rêvais d'avoir des éducateurs. Et finalement, aujourd'hui, c'est moi qui suis éducatrice. Voilà, mais ça soulève plein de sujets aussi, de qu'est-ce qu'on fait à cette place-là.
Et moi, c'est Marion, là. Je suis là ce soir en tant que psychologue en MEX. Et donc, c'est les maisons d'enfants à caractère social, plus communément appelées foyers. Et ben pareil, moi, j'étais plutôt intéressée par le travail en psychiatrie au départ. Et puis, voilà, aussi en trouvant du... cherchant du travail. Ça fait quand même plusieurs années que je travaille en protection de l'enfance. Et voilà, je crois que dans le fond, je me sens très concernée par la manière dont chaque génération accueille celle d'après, voilà, collectivement, et aussi comment chacun individuellement se coltine un peu ces questions-là. Voilà, je sais pas, une solidarité avec l'enfance, quoi.
Merci. Morgane, si tu veux baisser un tout petit peu ton micro, tu peux... Ouais, voilà, ça va faire un peu de bruit, mais je l'annonce comme ça, c'est pas grave. du coup, pour commencer, on avait bien envie de vous demander de peut-être nous expliquer un peu c'est quoi la protection de l'enfance, parce que finalement, on en entend parler, tout le monde en a entendu parler, mais c'est quand même une grosse institution, je sais même pas si je peux le dire comme ça, une grosse institution avec beaucoup de structures, beaucoup de parcours, de dispositifs, j'imagine. Et du coup, peut-être si vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est, pour commencer.
Ah, qui se lance ?
Ben, comment on pourrait résumer la protection de l'enfance ? En tout cas, ça concerne 400 000 enfants en France, dont la moitié à peu près sont accueillis dans des structures d'accueil, et la plus grosse moitié et la plus petite moitié, ils ont un suivi tout en restant dans leur famille. Et après, la plupart sont suivis dans la protection de l'enfance, donc par ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui dépend de chaque département, des conseils départementaux. Souvent, c'est suite à des mesures judiciaires, ça veut dire qu'il y a un juge des enfants qui est intervenu pour prononcer une mesure de protection. Ça fait suite, si on remonte, je fais un peu à l'envers, mais suite à des signalements ou des informations préoccupantes qui ont pu être faites par des professionnels, des proches, n'importe qui a eu vent d'une situation préoccupante pour un enfant. Après, ça repose beaucoup sur des notions floues de danger, ça veut dire quoi être en danger, tout ça, et il y a... Enfin bon, il y a plein de choses à en dire, mais après c'est un gros système compliqué et pas facile. Enfin, il y a plein de chemins et c'est difficile de s'y retrouver. Mais en tout cas, il y a des mesures administratives et des mesures judiciaires, mais la grosse partie c'est des mesures judiciaires, donc ça veut dire que le placement est demandé par un juge et voilà. Je laisse les collègues compléter.
Oui, peut-être l'autre partie, c'est du coup des mesures administratives où il y a une contractualisation entre la famille et l'ASE, et pareil, ça peut ouvrir sur soit des mesures de placement, soit des mesures en milieu ouvert.
Et peut-être pour préciser les structures, quand on dit les enfants qui sont du coup accueillis et placés, on s'est posé la question des mots qu'on utiliserait, mais parce qu'on pourrait, le mot peut-être officiel, c'est dire les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, mais on s'est dit que placer, c'était utilisé par elle et eux souvent, et ça reflétait assez bien leur réalité d'être placés ici et là sans trop choisir. Et pour donc ces enfants qui sont placés, il y en a à peu près 40% qui sont dans des familles d'accueil, 40% qui sont dans des institutions, donc foyers d'urgence, enfin les MEX dont parlait Marion, c'est plutôt des foyers, on reste au long cours. Ce dont on parlait, Morgane et moi, c'est normalement du plus court terme. Et les 20% restants qui sont soit en appartement, soit chez des tiers dignes de confiance, qu'on appelle donc des proches qui les accueillent avec l'accord du ou de la juge. Et la petite moitié qui n'est donc pas placée et qui est en famille, ils ont des mesures d'accompagnement comme ce qu'on appelle l'AEMO, l'accompagnement éducatif en milieu ouvert, avec des éducateurs, des éducatrices qui interviennent à domicile dans la famille.
Ok, et du coup, donc là, vous avez dit, les deux, Morgane et Élise, vous êtes dans un endroit d'accueil d'urgence en attendant que les enfants soient placés dans d'autres structures. Et vous avez dit, c'est censé être un accueil d'urgence. Peut-être vous pouvez nous dire pourquoi vous avez dit c'est censé. Est-ce que c'est parce que les enfants plutôt restent plus longtemps ou...
Un foyer d'urgence comme celui de Toulouse, c'est normalement, en théorie, c'est 3 mois de présence dans ce foyer avant de pouvoir être du coup réorienté vers un lieu qui conviendrait mieux à l'enfant ou au jeune. Mais en effet, de plus en plus, les foyers d'urgence se retrouvent vraiment saturés et en sureffectif sur chacun des dispositifs. Au foyer d'urgence, on va trouver de 0 à 18 ans et aussi des jeunes parents avec enfants, du coup, qui sont placés là. Et il y a des situations qui sont tellement compliquées, en fait, des situations d'enfants qui croisent tellement à la fois le sanitaire, le social, des choses médicales très lourdes et des enfants très très abîmés qui, de fait, en fait, ne sont pas orientés vers d'autres structures. La différence entre un foyer d'urgence et une MEX, par exemple, c'est que le foyer d'urgence, il va toujours accueillir. Et encore dernièrement, ce toujours, il s'est un peu atténué, mais il va toujours accueillir et normalement ne pas mettre dehors un enfant. Et alors que les MEX vont choisir sur dossier les enfants qu'elles vont accueillir. Ça fait qu'au foyer d'urgence, il y a une concentration des enfants qui cumulent le plus de vulnérabilité, de difficultés, et qui sont difficilement orientables après. Donc ça fait qu'il y a certains enfants qui restent 2 ans, 3 ans. Il y a des jeunes filles dont on peut s'occuper qui ont été placées bébés en pouponnière, où il y a des enfants qui vont revenir tout au long de leur parcours, repasser par le foyer d'urgence à leur petite enfance, autour de leurs 10 ans, et puis de nouveau adolescents ou adolescentes, on les retrouve au foyer d'urgence. Donc en effet, ça joue plus complètement ce rôle de tampon, accueil dans l'urgence et réorientation, mais plutôt c'est un endroit où parfois, et malheureusement, on reste, quoi.
Et il y a aussi une diminution du nombre de familles d'accueil, il n'y a pas assez de familles d'accueil, et donc il y a même des situations, enfin des enfants qui sont dans des situations peu complexes, qui restent longtemps, notamment des enfants petits. Habituellement, pour les enfants petits, on privilégie l'accueil en famille d'accueil, et ça traîne, il y a des enfants qui restent longtemps à la pouponnière alors qu'ils devraient être orientés rapidement. Et après, je pense qu'il y a plein de choses qui expliquent tout ça. Il y a aussi... comme les défaillances ne sont pas que dans la protection de l'enfance, mais aussi dans le soin, aussi dans le médico-social, les enfants qui ont des problématiques complexes, mais qui n'ont pas accès finalement à leur IME, à leur soin en pédopsie, et ben, ils vont moins bien. C'est plus inquiétant de les accueillir puisqu'ils n'ont pas de soins ou d'accueil ailleurs en cours, et donc ils restent d'autant plus. Donc il y a plein d'explications, mais c'est vrai qu'ils restent souvent très longtemps.
Oui, sur les MEX, c'est vrai qu'on a d'autres conditions d'accueil. Enfin, alors, c'est pas généralisable, mais il y a quand même... par exemple, nous, on peut avoir des groupes de petits. Alors, quand il y a des groupes de petits, des enfants, quand je dis petits, c'est 3-6 ans et de 6 à 11-12 ans, on va dire. C'est les groupes les plus jeunes accueillis en foyer. Soit parce qu'il y a des fratries, soit parce que c'est des enfants pour qui, tu disais, Elise, on privilégie l'accueil en famille d'accueil pour les plus jeunes. Là, c'est souvent des enfants pour qui il y aurait soit trop de conflits à être repérés auprès d'une famille, un lien qui serait trop consistant dans la dualité, soit du côté des enfants, soit du côté des parents. Ça peut aussi créer des conflits, ou ça peut être trop compliqué de voir son enfant confié à une autre famille. Par la distinction là, sur les conditions, les moyens qu'on peut avoir. Là, par exemple, il y a des groupes de petits où ils sont 6 enfants avec un taux d'encadrement d'adultes. C'est intéressant, enfin, où il peut y avoir 4 temps plein et demi d'éduc, une maîtresse de maison, post-psy, AS, enfin, il y a des surveillants de nuit, voilà, et avec une certaine stabilité, quoi.
Et du coup, on l'entend dans ce que vous dites, tu parlais de défaillance, de choses qui vont de moins en moins bien, on entend, là, dans les médias, on entend aussi beaucoup parler de... des défaillances de l'État, et on entend souvent parler d'une crise de la protection de l'enfance. Est-ce que c'est une crise parce que c'est en ce moment où, en fait, c'est quelque chose qui dépasse largement une crise? Est-ce que c'est, j'imagine, du manque de moyens, mais est-ce que c'est que du manque de moyens financiers? Enfin, voilà, comment vous parleriez de ce qui se passe dans ce cadre-là?
Je pense que le manque de moyens, ça fait consensus. Enfin, y a un rapport parlementaire là, qui est enfin, sorti. Bon, après, il y a des rapports qui ressortent régulièrement sur la protection de l'enfance et qui ont du mal à se concrétiser par des... voilà, par des mises en œuvre financières qui soient vraiment à la hauteur des besoins. Donc du coup, le manque de moyens fait vraiment consensus. L'un des derniers rapports, c'était c'est une députée Renaissance et une députée socialiste qui l'ont porté, et elle dénonce ça elle-même. Et donc ça, ouais, ça fait consensus. Après, dans le détail, je ne sais pas s'il y a eu une époque où il y a eu suffisamment de moyens qui étaient alloués. Là, c'est clair que ça se durcit, clairement. Mais je ne sais pas s'il y a eu un moment où il y a eu clairement une politique à la hauteur des enjeux de la protection de l'enfance. Un des points d'analyse là, sur cette question des financements, c'est le fait que du coup, ce soit les départements qui s'occupent, qui ont la charge de la protection de l'enfance. Et du coup, ça crée des disparités au niveau national, parce que tous les départements n'ont pas les mêmes revenus. Et alors en plus, en interne, je ne maîtrise pas trop, mais ce que j'ai compris, c'est que les revenus d'un département sont assez peu stables. C'est-à-dire qu'il peut y avoir pas mal de variations. J'avais entendu dire que notamment ça pouvait être corrélé au marché de l'immobilier. Donc c'est assez cynique, je trouve, du coup, d'aborder dans ce point-là. Mais en tout cas, c'est des choses qui nous sont... Enfin, moi, que j'ai déjà entendues. Et du coup, ça crée beaucoup d'instabilité. Et du coup, une des revendications, et pareil, qui fait consensus à différents niveaux, sur différents... mouvement politique, c'est le fait que l'État se réengage vraiment sur la protection de l'enfance, et financièrement, notamment.
Oui, je pense que sur le déroulé historique, moi je suis pas très calée, mais je pense qu'il y a plein de mouvements contradictoires, quoi. Je pense qu'il y a plein de choses qui se dégradent actuellement, et en même temps, il y a des... par exemple, sur comment on considère les enfants, on est loin d'être... arriver à un truc satisfaisant, mais on a un peu progressé par rapport à il y a 50 ans, en tout cas quand on lit les anciens dossiers, il y a un peu plus l'idée que quand même l'enfant est une personne, mais on est loin d'avoir arrêté d'avoir une approche autoritaire, mais en tout cas il y a des petits trucs qui évoluent sur comment on voit les enfants, mais par contre les moyens c'est vraiment un vrai problème, et je trouve, moi, que depuis quelques années, là, on voit des trucs très concrets, quoi. Jusqu'ici, on disait, il y a le manque de moyens, on manquait de personnel, ça c'est sûr, et de personnel bien formé, et qui avait des bonnes conditions de travail et tout, mais là, on manque même de voitures, d'ordinateurs, enfin, je veux dire, ça se répercute sur des trucs vraiment assez hallucinants, ou des trucs où jusqu'ici, quand même, on demandait, on avait le financement, là, ça y est, là, je finance plus, je sais pas, les transports, enfin, il y a plein de trucs où ça devient, où il faut faire 1000 dossiers pour avoir un financement temporaire via une plateforme, enfin tout est hyper complexifié, et vraiment donc ça c'est sûr que le manque de moyens il est énorme. Après je pense que la crise elle vient aussi de comment on considère les enfants, de tant qu'on n'abordera pas aussi ça sous le prisme des droits de l'enfant, de prendre tous conscience de nos manières de faire et de l'adultisme qui est partout, et je pense aussi que dans les choix politiques, parce qu'il s'agit quand même de ça, il y a vraiment, quand on... Là, avec toutes les politiques répressives qu'on a, tout ce qui a trait à l'enfance, c'est plus attention aux enfants dangereux et pas qu'est-ce qu'on fait pour les enfants en danger, quoi. C'est vraiment très, très, très basé sur un système punitif et répressif, et c'est juste là-dessus qu'il y a des moyens qui sont mis, quoi.
Et je pense qu'on peut voir aussi quelque chose de l'ordre, du capitalisme, comme on pouvait voir avec les gens qui font du profit sur les EHPAD et les maisons de retraite. Enfin, là, ce qui se développe, comme il y a de plus en plus d'enfants placés, c'est aussi des lieux qui se créent et qui sont pas du tout gérés par des professionnels de l'enfance, mais par des professionnels du management, et qui permettent d'engranger de l'argent. Et du coup, il y a vraiment pas mal de scandales, en tout cas dont on entend parler ces dernières années, mais ça veut pas dire que c'est nouveau. Sur des lieux comme ça où la maltraitance, elle est pas insidieuse, elle est vraiment très très présente, quoi. Il y a des lieux qui ferment. Donc il y a un manque de contrôle aussi sur les gens qui accueillent les enfants de la protection de l'enfance et les gens et certaines familles d'accueil et aussi certains lieux, quoi. Voilà. Et dans ce rapport-là dont on parlait, du coup, le rapport sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, qui est le dernier rapport de 2025, donc tu disais qu'il émanait de deux députés, mais il émane aussi du coup de l'IS Loufoque et du comité de vigilance des enfants placés, qui ont quand même pas mal porté ce truc-là. Donc je ne l'ai pas lu en entier parce que vraiment il est énorme, mais il y a quelques trucs un peu marquants comme voilà, l'État est caractérisé comme le premier parent défaillant de France, quoi. Être confié à la protection de l'enfance, ça veut vraiment, enfin ça nous assure pas du tout le fait d'être protégé. Donc les enfants, ils vivent aussi beaucoup de violence au sein de la protection de l'enfance et dû aussi à ce fait de manque de moyens. Et moi, pour ce que je connais, pour parler du coup du foyer d'urgence, c'est vraiment un turnover incroyable. Des professionnels qui restent pas du tout en place et aussi des professionnels qui sont pas toujours bienveillants dans la protection de l'enfance, quoi. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est plus généralisable dans la société. C'est un retard dans l'accès aux soins. On va avoir... Enfin, il faut un temps fou pour obtenir parfois une CPAM pour aller chez le docteur. Il faut un temps fou pour pouvoir accéder à de la santé mentale et psychique et même parfois de la santé somatique. Et ça fait qu'en fait, en effet, les enfants qui passent par la protection de l'enfance sont vraiment encore plus abîmés que les autres enfants. Et du coup, ben, les statistiques, elles sont pas très belles sur ce qui se passe après ça, quoi, quand on a traversé ce système-là.
Mais ouais, moi, je voulais rebondir juste sur la question du manque de moyens. C'est clair, enfin voilà, il y a... C'est pas contestable, sauf que du coup, ça imprègne vraiment, je trouve, les discours, ça imprègne vraiment nos réunions. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on réfléchit au projet d'un enfant, mais par exemple, des fois, il y a des enfants, il y a besoin qu'ils puissent ne pas être que sur le foyer tout le temps, qu'ils puissent à des moments sortir un peu. Donc il y a toujours cette question du manque de moyens qui est très prégnant. Et en même temps, du coup, c'est utilisé pour nous inviter à accepter de travailler en mode dégradé. Ça, c'est le terme qui ressort tout le temps, comme si c'était une évidence inéluctable, avec l'argument d'autorité là que ben, c'est ça la réalité, enfin qu'il va falloir faire avec. Bon, ça après, c'est un discours qu'on entend par ailleurs. Hein. Et du coup, je trouve que vraiment ça nous empêche un peu de penser à quel collectif d'accueil on se propose d'être. Enfin, c'est un peu ce que vous disiez, hein, par rapport aux violences qui peuvent être produites par le système. Parce que du coup, quand on réfléchit plus à comment on accueille chacun, chacune avec sa singularité dans un collectif, on réfléchit plus sur les liens qu'on a entre nous, avec les enfants, avec les parents, comment on travaille entre professionnels, avec nos différentes fonctions. Et finalement, quels moyens on se donne dans nos institutions pour constituer un collectif qui soit le plus favorable à cet accueil-là, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment des glissements qui sont un peu... alors qu'on retrouve par ailleurs dans la société, hein, mais c'est toute l'utilisation de... avant, dans la protection de l'enfance, on n'entendait pas parler de management. Maintenant, c'est hyper prégnant. Il y a des... il y a des manières, des logiques contre lesquelles on a lutté vraiment dans nos institutions. Je pense par exemple l'utilisation des le recours à l'intérim, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y avait des difficultés de recrutement d'éducateurs notamment et d'éducatrices pour accueillir au quotidien les enfants concernés. Une des hypothèses, c'était le manque de... Enfin, la perte de sens dans le travail. C'est une des raisons. Sauf que du coup, d'embaucher les personnes sur le statut d'intérimaire, ça précarise complètement le lien. Enfin, ça m'est arrivé de croiser un jeune avec une collègue. Et elle accompagnait pour un moment vraiment important dans sa vie. Elle se connaissait depuis le matin. Elle ne savait pas s'il revenait le lendemain. Donc du coup, ça participe à la perte de sens. Enfin, en fait, c'est un truc un peu qui s'auto-alimente et c'est une fausse solution. Mais c'est une solution, comme tu disais, qui a trait plus des logiques, oui, capitalistes ou néolibérales actuelles, quoi.
Euh,
Merci, on va faire une petite pause musicale et après on reprendra le cours de notre discussion et notamment sur les questions que vous avez commencé un peu à aborder sur les enjeux de santé et des parcours de soins et de comment accompagner les jeunes là-dedans. Et on lance la musique.
Mich verändert, ich bin nicht mehr der Gleiche. Wie auch du hast dich verändert, bist nicht mehr der Gleiche. Wir beide haben uns verändert, das ist mir auch so gleich. Weil die Liebe wird sich nie verändern, sie bleibt immer die gleiche. Das Leben will sich erleben, lass es zu. Kam Kampf nicht dagegen an, gib Ruhe. Ich hab mich verändert, ich bin nicht mehr die gleiche. Wie alt du hast dich verändert, bist nicht mehr die gleiche. Wir beide haben uns verändert, uns ist mir auch so gleich. Weil die Liebe wird sich nie verändern, sie bleibt immer die gleiche. Sitzt tief in mir drinnen. Der Schmerz ist sich immer noch am Erinnern. Ich hab dir mal gesagt, ich werd dich nie verlassen. Musch mich
allein. Et donc on est toujours sur Brasero et on discute donc de protection de l'enfance, des enfants et des adolescents. Peut-être avant d'enchaîner sur vraiment la question de du soin, enfin si en fait ça va avec, mais peut-être Morgane, tu avais envie de dire un truc un peu plus en particulier sur les jeunes et les enfants que, avec lesquels tu travailles toi, sur les mineurs isolés,
oui.
Enfin, non accompagnés.
Oui, là on parlait globalement des enfants placés en protection de l'enfance. Pour le coup, il y a d'autres enfants et jeunes qui, en ce moment, la catégorie administrative dont on parle, c'est les mineurs non accompagnés, les MNA, mais c'est une catégorie qui a changé à plein de moments. C'était les mineurs isolés, étrangers, les enfants errants, enfin peu importe. Mais on parle du coup d'enfants étrangers qui, pour une part d'entre eux, en tout cas, cherchent cette protection et cherchent à être placés pour le fait d'être seuls sur le territoire. Du coup, on les considère en danger parce qu'ils sont sur le territoire sans représentants familiaux. Et du coup, le parcours est assez long pour se faire reconnaître mineur non accompagné. À Toulouse, on a une longue histoire avec autonomie, et je pense qu'on est tous et toutes un peu au courant de ces parcours, de ces squats, de ces luttes qui souvent sont intervenues, le temps d'attente et le temps du recours, parce qu'en fait, quand on est mineur non accompagné sur le territoire, on se présente au conseil départemental et puis du coup on va devoir passer par un processus de détermination de minorité qui s'apparente beaucoup à une enquête, un interrogatoire. Donc on est dans un foyer plutôt fermé et on va avoir des éducateurs et des enquêteurs, des enquêtrices qui nous posent des questions, enfin qui posent des questions sur le trajet, sur les villes par lesquelles ils ou elles sont passées, les temps d'attente, combien on a payé pour passer telle frontière. Et très souvent, peu importe le discours en fait qui va être donné, soit le discours est beaucoup trop précis, donc c'est pas crédible, ou soit le discours est vraiment trop flou, et du coup c'est pas crédible non plus. En tout cas, ça aboutit souvent sur un refus de minorité. Et parfois, la minorité est donnée du premier coup. Du coup, l'enfant se retrouve placé en foyer d'urgence, puis en foyer classique. Mais il y a aussi parfois un recours qui peut durer 1 an, 2 ans, avec tout ce temps qui peut être passé, soit à la rue, soit dans des squats, avec des expulsions dans différentes villes, etc., avec des retards d'accès aux soins. Même si, ici encore une fois, à Toulouse, il y a pas mal d'assos et de collectifs qui accompagnent autour de la santé des mineurs isolés. Voilà, moi où je travaille, on reçoit ces jeunes-là, beaucoup de jeunes qui sont passés du coup par la rue et qui sont en demande de ce placement et en demande d'une insertion sur le territoire français, qui du coup vont être un peu vite envoyés vers des foyers où ils vont pouvoir être apprendre le métier d'électricien, de plombier, tous les métiers en tension, vite, 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 on les envoie, ils veulent bien faire, et hop, ça peut marcher comme ça pour certains d'entre eux. Mais pour d'autres d'entre eux, qui sont soit plus abîmés par le parcours, plein de choses, qui peut-être pour certains ont décompensé, qui certains ont connu la rue pendant trop longtemps, ont développé des addictions, etc. Bon, ça va être un peu moins facile de rentrer vite dans ce parcours-là. Et du coup, c'est des jeunes qui se retrouvent parfois à la rue à 18 ans ou en dehors des foyers d'urgence, parfois mis dehors pour pas avoir respecté les règles. Ou voilà. On pourrait faire une émission entière sur ça aussi, mais la protection de l'enfant, c'est aussi ces jeunes-là. Et du coup, tout le racisme qu'ils et elles peuvent subir dans cette détermination de minorité, mais aussi une fois qu'ils arrivent au foyer, le fait qu'eux doivent décider très très vite qu'est-ce qu'ils doivent faire et puis être très très vite utiles à la société, et qu'en fait, ils vont pas avoir le temps de s'opposer, d'avoir une écoute, ou même de faire des bêtises comme tout le monde et d'avoir droit à continuer à être là, quoi. En fait, très très vite, la chance leur est enlevée. Voilà.
Et en plus, comme on sait que ça conditionne leur possibilité d'accès à un titre de séjour, on est aussi contraint de les encourager là-dedans parce qu'on pense à leur future régularisation.
Oui. Oui, oui, la dernière loi asile et immigration fait que si un mineur étranger du coup a été condamné pour quelque chose qui s'apparente à un trouble de l'ordre public, par exemple la cession ou la consommation de stupéfiants, ça en fait partie, le titre de séjour, enfin, il n'y en aura juste pas quoi aux 18 ans.
Et juste, moi je voulais revenir sur ce que, parce que ce que tu disais là sur la situation d'évaluation, moi j'ai vraiment vu la bascule. C'est-à-dire que la logique au mérite a toujours existé pour ces jeunes-là. Je pense qu'il y a toujours eu un système raciste qui les coincé dans... en tout cas, il faut que tu sois utile. Si tu viens ici, pour être accueilli, il faut que tu sois utile. Je caricature à peine. Mais depuis 10 ans, là, et qu'il y a ce dispositif d'évaluation, du coup, c'est des jeunes qui... au moment où ils peuvent un peu poser leurs affaires, un peu, en tout cas, sortir du mode survie, il y a une injonction à ce qu'ils viennent parler, raconter leur parcours, souvent, en tout cas, dans une temporalité qui n'est pas forcément à la leur, et en plus avec des enjeux où ça se retourne contre eux. Et vraiment, je le constate, alors bien sûr que ce n'est pas généralisable, mais en tant que psy, il y a vraiment un effet délétère sur le rapport à la parole, dans le traitement aussi des traumatismes qu'ils ont vécu, d'être coincés là, dès leur arrivée sur ces questions-là, quoi.
Mais sachant qu'une fois qu'ils sont reconnus mineurs, même après un recours, et donc là on peut imaginer ça fait à peu près 1 an, 2 ans qu'ils sont à Toulouse, ils arrivent peut-être au foyer d'urgence, mais en fait c'est encore temporaire parce qu'ils vont être réorientés pour qu'il y en ait le même nombre partout dans le pays. Donc c'est vraiment absurde, c'est la clé de répartition là. Et donc en fait, ils vont peut-être partir à Metz ou à Cholet. Et alors, enfin, donc voilà, c'est, nous parfois on est amené à faire des certificats médicaux pour que pour qu'ils restent, pour appuyer le fait qu'ils restent à Toulouse. Mais c'est vraiment les moments où je trouve le. Enfin, je veux dire, moi, je pense que c'est pour la bonne santé de tout le monde d'être stable, du coup, mais dans ce cas-là, j'en ferai à tout le monde. Mais du coup, où est-ce que tu mets le seuil ? Enfin, ça fait des... Encore une fois, enfin, je sais pas, on demande tout le truc de toujours certifier, de voir... on n'évalue pas du tout de manière... Enfin, je sais pas, on prend pas en compte déjà le désir et la stabilité et le bien-être du jeune de manière simple. Il faut absolument avoir 1000 critères pour rentrer dans la case, quoi.
Du coup, on a carrément commencé à en parler. On a vu aussi ce que vous faites, le fait d'accompagner, d'être avec les jeunes et les enfants au quotidien. On avait envie de pouvoir parler de la question de la santé et du soin. Et peut-être de... ce que vous constatez aussi de l'état de santé des jeunes, que ce soit la santé mentale, mais aussi la santé physique, et voilà.
Bah, je pense que le système, il rend fou, donc déjà, et la maltraitance, ça a des... Enfin, je veux dire, je sais pas, moi, c'est un peu confus, parce que je crois que quand... Enfin, j'ai beau essayer d'avoir du recul, j'ai l'impression que c'est difficile quand on est dedans, mais en tout cas... moi je me suis dit souvent bon déjà les effets de la maltraitance ça peut être vraiment énorme et ils peuvent arriver vraiment avec enfin un peu en petits morceaux quoi et c'est je trouve que c'est un travail qui demanderait beaucoup de finesse et d'accordage entre les professionnels et avec les groupes pour bien les accompagner déjà avec tout ce qu'ils ont vécu mais en plus plutôt on en rajoute des couches Ou alors quand on arrive à bien bosser, ça finit par une rupture brutale et du coup j'ai l'impression qu'on sape tout ce qu'on a fait. Enfin c'est vraiment difficile de faire du soin de qualité pour plein de raisons je pense. Parce que c'est très difficile de bien les accueillir. Il faut être hyper... Enfin je pense que c'est difficile et on n'a pas du tout suffisamment... de moyens, de formation, de temps de discussion, de changement de posture qui permettrait de le faire bien. Et aussi parce qu'après, si on parle vraiment des dispositifs de soins qui existent, ben, pour ma partie, moi, dans mon travail, je fais quand même beaucoup la question de l'orientation vers les soins psychiatriques. Et bon, la moyenne d'âge des pédopsychiatres en France, c'est 65 ans. Mais alors que la moitié des enfants hospitalisés en pédopsychiatrie sont suivis par la protection de l'enfance. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont des gros troubles. Après, je trouve qu'on les... Enfin, moi, de plus en plus, je suis très dubitative des parcours de soins qu'on propose. Ils sont hyper hachés, découpés. Et en plus, on sait partout, quoi... Enfin, on sait que c'est surtout l'accueil en lui-même qui peut être thérapeutique. Après, je comprends complètement qu'il y ait besoin d'équipes de soins pour soutenir les équipes d'accueil, etc. Mais là, c'est pas trop fait dans cette dynamique-là. Et tout est très cloisonné. Et en plus, au niveau des soins, bah, l'accès en consultation de pédopsychiatrie est de plus en plus long. Par contre, les prescriptions de médicaments augmentent énormément, y compris chez les petits. Et moi, vraiment, quand je me dis que... Enfin, du coup, ça veut dire que beaucoup de traitements sont prescrits pour compenser des conditions d'accueil défavorables et pour... en l'absence d'autres soins non médicamenteux proposés. Et vraiment, quand on réfléchit à l'échelle de la société, on se dit que c'est... Enfin, on donne des neuroleptiques à des enfants parce qu'on... On s'organise pas collectivement pour proposer autre chose. C'est tellement grave, quoi. Du coup, mais c'est vraiment des augmentations énormes. Là, j'avais des chiffres de plus de 50... Enfin, je comprends jamais les pourcentages en augmentation, mais une augmentation de 50% pour les neuroleptiques, de 60% pour les antidépresseurs. Je parle pas pour tout ce qui est Ritaline et TDAH, c'est encore une autre question, mais en tout cas, c'est vraiment énorme, et c'est souvent la seule réponse qu'on a quand on parle de soins psychiques. Voilà, donc ça, c'est assez désespérant. Après... c'est pas pour édulcorer, mais j'ai toujours envie quand même de dire que enfin, c'est un vrai mélange, je trouve, dans ces lieux d'accueil de protection de l'enfance. Il se passe vraiment des trucs horribles et des trucs géniaux simultanés tout le temps. Et il y a plein de professionnels qui sont à fond. Et parfois, on fait des trucs on arrive à bien se coordonner, on fait des trucs super avec un éduc qui connaît bien l'enfant, un soignant qui connaît bien l'enfant, la psy qui est dans les parages. Enfin, il se passe des trucs chouettes, mais le problème, c'est comme si les trucs tiennent pas, quoi, je trouve. Il n'y a pas de... Même quand tu tiens un truc, tu es avec des professionnels que tu connais, que tu as confiance, tu as l'impression que tu réfléchis bien à la situation. Et puis, en fait, de toute façon, le parcours, il va être complètement... il va tomber en... Le château de cartes s'effondre direct, quoi. Alors que c'est du travail de grosse précision.
Ouais, mais c'est très clair, Élise, ce que tu dis. Je suis vraiment d'accord. Enfin, que... Voilà, de rappeler que le soin, ça commence par les conditions d'existence des personnes. Enfin, ça, ouais, clairement. Et je pense que oui, on a une certaine humilité, une certaine prudence à avoir quand on intervient au titre de la protection de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a l'idée de sortir des enfants d'une situation de danger. Mais derrière, tout le travail reste à faire sur oui, les conditions d'accueil, comment on n'en rajoute pas aux violences déjà vécues.
Oui, au foyer d'urgence, par exemple, on ne fournit pas un psychologue à chaque enfant, c'est pas vrai. Il y en a plein qui restent avec... Enfin, on les amène pas forcément tous chez le dentiste ou chez l'orthodontiste parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de regarder la vue. Enfin, il y a plein de choses, on n'a pas le temps de faire. Et du coup, il y a des enfants qui arrivent à 16 ans, 17 ans, 18 ans et qui ont déjà des grosses carences de santé juste parce qu'on n'a pas eu le temps et qu'il a passé 3 mois dans tel foyer, 2 mois dans l'autre et puis 6 mois retourné en famille. Et ça fait des grosses ruptures dans les parcours qui après font des grosses, grosses carences et... Enfin, c'est vraiment parfois, par moments, catastrophique. Donc oui, en effet, il y a parfois des choses belles et ça s'articule bien. Et il y a aussi plein d'autres moments où, en fait, ce manque de moyens-là, notamment, ça se répercute très fort sur la santé des enfants et des jeunes qu'on accompagne, quoi. Et c'est hyper difficile d'être témoin de ça, en fait.
Ils ont 20 ans d'espérance de vie en moins, quand même, les enfants qui ont vécu de la maltraitance. Et donc les enfants de la protection de l'enfance. Donc c'est très réel. Voilà.
Et c'est difficile de rebondir. En termes de peut-être d'organisation collective ou de lutte, d'essayer de transformer tout ça, est-ce qu'il se passe des choses, j'imagine? Est-ce qu'il y a des. Enfin, voilà, comment ça se joue à l'intérieur des institutions, à l'extérieur? Voilà, quelles seraient les perspectives?
Bon, il y a pas mal de difficultés quand même à se mobiliser, en tout cas à avoir des mobilisations massives à la hauteur des enjeux. On en parlait là un peu avant, il y a des choses un peu ponctuelles qui peuvent se produire. Je ne sais pas tout à fait l'analyser. Je pense que... Moi, je peux parler en mon nom. Moi, je crois que les fois où, par exemple, je ne suis pas allée aux manifs qui pouvaient nous concerner, c'est parce que, par exemple, il y avait la réunion où il va se traiter de questions importantes pour tel ou tel jeune. Et du coup, je me dis, ah, je ne peux pas... Il y a quand même quelque chose comme ça où on peut aussi, des fois, se... penser peut-être indispensable, enfin, ou en tout cas, voilà. Après, je sais pas, on a du mal, peut-être on est un peu éparpillé aussi, puis on est tellement pris dans des questions au quotidien un peu prégnantes, quoi.
Ouais, c'est un secteur qui manque, je pense, beaucoup de mobilisation, mais moi y compris, hein, voilà. En tout cas, nous, dans l'institution, on travaille avec Élise au foyer d'urgence. Les rares fois où il y a de la mobilisation, c'est quand il se passe quelque chose de grave sur un professionnel, sur un éducateur qui a été victime de violences, etc. Donc, parfois, il y a eu ce genre de mobilisation autour du rond-point, etc. Où, bon, c'est dur de travailler au CDEF. Oui, bah oui, c'est dur, mais en fait, on peine à joindre ça avec comment c'est dur, surtout pour les enfants qui y sont accueillis, quoi. Bon, mais parfois ça arrive, et dernièrement il y a eu une mobilisation devant le foyer de l'enfance avec pas mal de professionnels d'autres structures du travail social et de protection de l'enfance qui sont venus en renfort. Donc nous on était très peu, mais en fait il y avait pas mal de gens qui sont venus de l'extérieur, et il y a eu quelques jeunes filles et quelques enfants qui ont pu, plus ou moins, ou qui ont pris le micro pour prendre la parole. Donc voilà, ça manque aussi, je pense, Ouais, de, enfin, il peut y avoir quelque chose de revendication professionnelle, mais qui, moi, me gêne toujours un peu, si c'est pas lié comme ça avec des revendications ou, enfin, de donner la voix aux enfants qui vivent aussi ces choses-là, et pour eux, c'est pas un boulot, enfin, il n'y a pas de salaire, c'est vraiment, c'est différent, quoi.
Ouais, moi, je suis toujours... c'est vrai qu'on galère à se mobiliser, alors que moi, il y a plein de jours où je me dis « Mais pourquoi on n'est pas tous en droit de retrait aujourd'hui ?» Enfin, c'est vraiment... Il se passe vraiment des trucs hallucinants. Et tous les jours, c'est plus hallucinant, quoi. Les enfants, il n'y a plus de chambre, donc ils sont accueillis à deux par chambre, puis ils sont accueillis dans la salle qui était dédiée à être une salle d'apaisement, puis ils sont accueillis dans la salle de réunion, puis ils sont accueillis dans le bureau du cadre. Enfin, là, je parle des accueils en sureffectif, c'est toujours plus hallucinant. Enfin, je sais pas, il se passe des trucs toujours plus graves. Toutes les vitres étaient cassées. Enfin, je sais pas, il se passe des trucs toujours un peu hallucinants. Et en même temps, on est très tenu par l'intensité, par le truc de oh, c'est des enfants en danger, il faut bien sûr être là pour s'occuper d'eux, comment on peut arrêter, quoi. Il y a ce truc qui est très fort, il y a peu de culture de lutte et d'organisation collective. Moi, je sais pas si c'est un mythe ou pas que le secteur du social était plus à gauche et plus organisé avant. Sans doute, il l'a quand même été un peu plus, je pense, mais je pense qu'il y a aussi... Enfin, il y a aussi cette culture un peu de flic social dans le milieu éducatif. Enfin, il y a un truc qui n'est pas non plus très organisé. Et c'est vrai qu'il y a peu de liens entre les structures, entre... Chacun est un peu en train de tenir les murs de sa baraque et c'est pas très organisé. Après... Je pense qu'il y a aussi... Moi, j'ai à la fois, j'ai plein de... Enfin, pour parler peut-être de quand même ce qui se passe à Toulouse, il y a quand même l'Assemblée Générale, l'AG Sociale en Lutte, là, qui continue encore. On vous lira leur petit... Je peux vous lire leur petit texte. C'est tous les troisièmes jeudis du mois. Et je vous lis là la définition du collectif. Nous sommes un collectif unitaire ouvert aux travailleurs, travailleuses, étudiants, étudiantes et aux usagers, usagères du secteur social et médico-social qui défend l'intérêt et la légitimité des personnes du secteur à décider de l'organisation du travail et des politiques à mettre en place et à s'opposer aux décisions appliquées par les directions et l'État. Il vise donc à organiser et soutenir les luttes contre les politiques antisociales et autoritaires que nous subissons. Voilà.
Donc il y a une AG ce jeudi.
Ouais, il y a une AG ce jeudi.
Au chat noir.
À 18h30. Il y a aussi eu quand même le collectif enfantiste là au niveau national qui a du coup la manifestation dont on parlait au début du 25 novembre. Pas du 25 novembre, pardon, du 15 novembre. En tout cas, qui a été cette année relié dans plein de villes. Et ça, alors moi, personnellement, au début, j'avais un peu de mal à comprendre il y a quelques années, quoi, quand ça a commencé, le truc de faire des manifs dont l'unique motif, c'était déjà beaucoup, mais en tout cas, dont le motif affiché, c'est lutter contre les violences faites aux enfants, parce que j'ai toujours du mal avec le fait que c'est pas relié avec lutter contre les inégalités sociales et aider les familles en galère en général, parce que je trouve là on n'a pas trop eu le temps d'en parler, mais on a parlé de placement et tout. Un des énormes problèmes, c'est quand même qu'on fait zéro prévention, il y a un manque cruel de prévention, d'intervention, de soutien aux familles en difficulté, et alors à tous les niveaux, je pense au niveau institutionnel, au niveau de nos solidarités locales, enfin il y a plein de trucs, mais en tout cas, du coup moi ça me faisait toujours bizarre que ce soit pas relié, et en même temps je trouve quand même ça super, notamment que les milieux féministes s'emparent de la question là, et que ça commence à être le cas de plus en plus, et ça génère plein de discussions et de la mobilisation. Et je sais que dans plein de villes, ça a quand même créé des liens entre les milieux féministes, les pros du secteur, des usagers et usagères, des jeunes. Donc ça, c'est quand même super, et je crois que c'est déjà lancé pour l'année prochaine, ouais. Le 14 novembre, ouais. 2026. Voilà. Pour ce que je connais un peu de la lutte, après, il y a plein de trucs. Enfin, moi, quand je réfléchis à comment ça pourrait être autrement, il y a plein de trucs auxquels je pense. Je pense que les jeunes sont quand même très peu... comment on dit, on les intervienne peu dans leur propre parcours, quoi. On pourrait faire des réunions avec les jeunes, parce qu'on se réunit beaucoup entre professionnels ou on reçoit la famille, mais il n'y a jamais une réunion avec tout le monde ensemble. Alors que je pense qu'il faut un peu recoller les morceaux, quoi. Ils sont vraiment fragmentés entre plein de choses. On pourrait faire ça, on pourrait faire beaucoup... pour ce qui est du soin, je pense qu'il y a beaucoup plus de trucs qu'on pourrait faire en groupe, sortir des consultations individuelles. Bon, il y a plein de choses à imaginer. Après, je pense qu'il y a des questions d'échelle. Enfin, en tout cas, là où on travaille, c'est quand même une grosse machine. Et je pense que des fois, s'organiser à plus petite échelle, peut-être que ça permet plus de choses. Voilà où j'en suis. Et vous, nos idées?
Non, pas particulièrement. Ouais, non, si, peut-être pour pas terminer sur... Enfin, voilà, dans l'idée de pas terminer sur une note... voilà, il y a quand même des moments quand il y a des moyens. Enfin, l'accueil collectif aussi, ça peut avoir des... en tout cas, il y a des jeunes, des enfants qui peuvent témoigner que ça peut être soutenant, voilà, pour eux dans leur parcours. Mais encore une fois, quand les conditions d'existence sont favorables, c'est pas que... des fois, il y a plutôt des choses soutenantes, quoi.
Tu parlais, Alice, du rassemblement qu'il y a eu, qui a été organisé par la Manif Enfantiste ou Collectif Enfantiste. Et du coup, il y a des personnes de Brasero qui avaient été prendre un petit peu du son pendant ce rassemblement. Et donc, peut-être on peut mettre un petit passage d'une chorale, des Chakirales qui avaient fait... quelques chansons, et comme ça après on arrivera à la conclusion de l'émission.
En 1934, une centaine d'enfants se sont révoltés pour protester contre les mauvais traitements qu'ils subissaient dans la maison d'éducation surveillée, le Bagne de Belle-Île. 55 enfants se sont enfuis. L'administration de la colonie pénitentiaire a fait appel à l'aide de la population pour les récupérer. 20 francs l'enfant. C'était le montant de la prime pour amener les évadés du Bagne de Belle-Île, fuyant les violences des gardiens. Tout le monde s'y met. Prévert, Jacques Prévert, alors présent sur place, écrit « La chasse à l'enfant », qui sera mis en musique par Joseph Cosma. Ce chant nous a été transmis il n'y a pas très longtemps par la Canaille du Midi, qui est une chorale amie de Toulouse. 13, 2.
Rejoindras-tu le continent? continent, rejoindras-tu le continent ?
Et voilà, on arrive à la fin de l'émission sur la question de protéger les enfants et de la protection de l'enfance. On a parlé de plein de choses, mais on pourrait en parler encore de plein. Peut-être on refera des émissions, sûrement. Ce qu'on se disait là aussi, pendant qu'il y avait la petite musique, c'est que bah, on a l'impression que c'est des sujets qui quand même sont de plus en plus saisis par... les milieux féministes et la gauche, et que du coup bah, c'est hyper important, mais que c'est aussi surtout en ce moment, surtout ces derniers jours, dernières semaines, mais depuis un petit moment, des thématiques qui sont aussi beaucoup réappropriées par l'extrême droite. On le voit aussi même dans des rassemblements qui sont organisés avec des personnes d'extrême droite qui s'invitent. et voilà, et que du coup peut-être il faut qu'on l'ait en tête, qu'on soit particulièrement vigilante et qu'on continue de faire ce qu'on peut, et peut-être que je voulais vous demander s'il y avait des choses que vous aviez pas dites, que là vous voulez profiter des dernières minutes qui restent pour dire le mot de la fin ou de la suite plutôt.
Mais peut-être qu'il faut aussi aller voir du côté des voix des enfants placés qui parlent de plus en plus, là notamment avec l'IS Loufoque et le comité de vigilance, etc. On a quand même, enfin, il a quand même une voix assez importante, puis il a fait sortir beaucoup de voix d'enfants des foyers, donc ce serait chouette même de faire une autre émission avec des personnes concernées directement et des personnes aussi qui à travers des collectifs, etc., des prises de parole, se mettent en lutte, dénoncent, et peut-être on pourrait créer des choses un peu nouvelles. Voilà.
Parce que nous, on voulait carrément diffuser des extraits, et puis à l'image des professionnels de la protection de l'enfance, on n'était pas très organisés, et on n'a pas beaucoup anticipé. Et... voilà.
Bah, en tout cas, c'est un projet à bras zéro, c'est l'idée, c'est en cours, du coup, on reviendra à un moment avec une émission.
Et aussi pour comprendre leur vie, parce qu'en vrai, les jeunes, elles ont aussi... Enfin, je dis elles, mais elles ont des vies où on comprend rien aussi, en vrai. Enfin, on est là, on est des professionnels qui s'intéressent à leur vie et qui essayent de les accompagner, mais il y a plein de réalités qui nous échappent à fond. Et du coup... enfin, voilà, c'est... Enfin, de toute façon, on veut entendre leurs paroles et aussi on a besoin de les comprendre un peu. Mais on a une place de témoins, mais de témoins qui comprend pas toujours grand chose.
Ben ouais, ben merci beaucoup. En tout cas, nous, on a appris une tonne de trucs, et ouais, c'est vraiment le projet aussi de revenir en septembre avec des enfants, des adolescents ou des jeunes qui sont sortis de la protection de l'enfance. Merci encore. Très bonne soirée.
Merci.